Fréquence protestante, le Midi Magazine, Laurence Arven.
Madame Mireille Delmas-Marty, bonjour.
Bonjour.
Je suis très honorée de vous recevoir à la radio parce que je sais que vous avez beaucoup de déplacements à l'étranger et de responsabilités. Vous êtes juriste. Vous êtes titulaire au Collège de France de la chaire d'études juridiques comparatives. Je vais évidemment vous demander ce que cela veut dire. Et d'internationalisation du droit. Et vous êtes par ailleurs membre de l'Institut. Et j'ai eu l'envie de vous inviter sur le thème d'un de vos livres récents, mais ça n'est pas le plus récent, celui qui est paru au Seuil fin de l'année dernière, je crois. Liberté, au pluriel, et sûreté dans un monde dangereux, paru au Seuil. Et c'est un livre dans lequel vous exprimez une inquiétude devant une évolution d'un monde contemporain, que ce soit au plan national ou au plan international, d'une dérive sécuritaire, d'une fièvre sécuritaire qui risque de balayer pas mal de nos libertés individuelles. C'est résumé un peu rapidement. Alors, je reviens à la question des études. Être titulaire d'une chaire d'études comparatives juridiques, c'est quoi ?
En fait, le cœur de la chaire, c'est internationalisation du droit. Le phénomène que j'étudie, et qui est en pleine évolution, en pleine expansion, c'est pas le droit international en tant que tel, c'est pas le droit national comparé d'un système à l'autre, comparé le droit français au droit allemand ou au droit italien en tant que tel, qui est l'objet de ma chaire, c'est étudier les interactions entre les différents systèmes de droit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le droit bouge énormément, se transforme. Il était longtemps identifié à l'État. Maintenant, il l'est de moins en moins. On connaît l'Europe, on connaît les conventions internationales à vocation mondiale. Et il y a un effet de perturbation à la fois sur le droit international classique, qui était interétatique, et sur le droit national. Alors, c'est ça le cœur de mon travail.
Ce sont des mutations.
Les mutations qui font interagir les droits nationaux et les droits internationaux. J'emploie le pluriel parce que vous avez les droits de l'homme d'un côté, vous avez le droit du commerce, vous avez le droit des régulations financières, vous avez le droit de l'environnement. Donc, ce sont des mouvements très complexes.
Est-ce que vous êtes, j'allais dire choquée, le mot est trop fort, mais est-ce que vous acceptez, si je dis que vous êtes une juriste engagée, ou du moins très en alerte sur les risques de dénaturation, de déshumanisation de tout ce qui est d'ordre pénal, donc au détriment des libertés individuelles. Est-ce que ça vous choque si je dis que vous êtes une juriste engagée ?
Non, je crois qu'on peut le dire. J'essaye de rester objective dans mes constats.
Bien sûr.
Mais je suis engagée dans la mesure où la critique débouche, puisque le droit est normatif, sur des contre-propositions. Et dans ce sens, on peut parler en effet d'un engagement citoyen. Simplement, j'essaye, dans la partie descriptive de mon travail, dans l'analyse, d'être aussi objectif que possible.
Bien sûr.
On l'est jamais parfaitement, mais je crois qu'il faut essayer de l'être.
Alors, vous dites dans l'ouverture, je crois, l'introduction de ce livre, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, vous dites que l'idée, si j'ose dire, la volonté de faire d'abord un cours au Collège de France, puis ensuite ce livre, vous est venue par l'actualité française, avec le vote de la loi du 25 février 2008, donc c'est récent, qui est relative à la rétention de sûreté et qui établit donc une rétention de sûreté. Alors, Pour nos auditeurs et pour moi-même, ce sont des termes avec lesquels on est obligé de s'habituer. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi cette loi vous a-t-elle paru dangereuse ?
C'est une loi qui permet en fait de retenir, d'où le terme rétention, de retenir en prison une personne qui, au départ, a commis une infraction pénale de la catégorie des infractions graves,
oui,
mais qui a été condamnée et qui a déjà exécuté sa peine. Donc l'idée, c'est que cette personne qui a exécuté sa peine reste dangereuse pour la société. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que la peine n'a pas rempli sa fonction de resocialisation.
Oui, c'est presque une manière de juger sévèrement ce qui a été fait.
C'est une sorte de constat d'échec,
oui,
pour les peines utilisées. En même temps, ce qui me paraît grave, c'est que cette rétention, elle est d'un an, mais elle est renouvelable indéfiniment. Donc elle peut aboutir à une rétention à perpétuité, ce qui n'est pas rien. Or, elle est basée uniquement, enfin essentiellement, sur l'avis d'une commission, dont je vous reparlerai ensuite, un avis qui consiste à dire il y a un risque de récidive,
oui,
et il y a un diagnostic de dangerosité.
Donc c'est un nouveau critère, en somme.
C'est un nouveau critère extrêmement vague.
Oui.
La commission elle-même, elle est composée de façon hétérogène. Il y a un médecin, il y a un psychanalyste, il y a un psychiatre, il y a un représentant du monde judiciaire, il y a un avocat, il y a un représentant des victimes, un représentant du préfet. C'est une composition très hétéroclite qui rend cet avis. Alors ensuite, l'avis passe devant un juge. Mais que peut faire le juge ?
Oui, parce qu'il n'y a plus, pas de faute, on n'est plus,
plus dans le domaine de la preuve. Oui. On ne vous garde pas en rétention, on ne vous retient pas en prison pour ce que vous avez fait, parce que ça, vous avez déjà payé le prix, vous avez exécuté la peine. On vous retient pour ce que vous êtes, catégorisé comme dangereux. Ça veut dire que, moi j'appelle ça une sorte de déshumanisation. Pourquoi est-ce que je emploie un mot aussi fort,
oui.
Parce qu'il me semble que le propre de l'être humain, c'est une certaine indétermination. Si nous sommes responsables, c'est parce que nous avons la liberté de choisir, de commettre, oui, ou non des fautes. Si on nous dit que nous sommes déjà prédestinés
à être nuisibles en permanence, c'est presque ça.
À commettre des fautes, puisque nous sommes dangereux et nous sommes, oui, diagnostiqués tels, comment faire la preuve contraire ? Comment le juge pourrait remettre en cause l'avis de cette commission. Et dans les cas où il y aura eu une erreur, on ne pourra jamais la prouver. On peut prouver l'erreur judiciaire quand quelqu'un a été déclaré coupable. On peut arriver à faire la contre-épreuve et la preuve de son innocence. Mais quand quelqu'un a été déclaré dangereux, comment,
oui,
prouver qu'il ne
moyen,
l'était pas ?
Bien sûr.
On vous garde à perpétuité en prison, vous ne pourrez jamais prouver qu'il y a une erreur quelque part. Donc la présomption d'innocence n'existe plus, le rôle du juge est complètement marginalisé, au, oui, profit d'une, oui, sorte de transfert de pouvoir, oui, en direction de cette commission qui elle-même est très hétérogène, disons au profit de la criminologie, de la science,
oui,
très inexacte, science humaine inexacte, en tout cas approximative. Et au fond, j'en viens à penser qu'on vous enferme à ce moment-là comme on enferme un animal dangereux ou comme on interdit de vendre, oui, un produit dangereux. C'est dans ce sens qu'il y a une sorte, oui, de déshumanisation.
Et il y a une rupture aussi entre... Enfin, on remplace la culpabilité par la dangerosité comme,
voilà,
critère. Et il y a une rupture, je pense que vous le dites ainsi, une rupture entre des éléments essentiels, la culpabilité, la responsabilité qu'on reconnaît ensuite,
oui,
à un individu et la sanction, parce,
voilà,
qu'il a été responsable. Et la punition aux sanctions.
Pour l'articulation classique, culpabilité, c'est la faute,
bien sûr,
qui entraîne la responsabilité, le devoir de répondre. Et la réponse consiste en réponse répressive, la punition, la sanction. À ce moment-là, il y a une logique.
Bien,
alors,
sûr.
Bien là, sûr, les fonctions de la peine ont toujours été mixtes. à la fois punir la faute et protéger la société, défendre la société. Mais il y avait en filigrane, au moins en théorie, sinon dans les pratiques, l'idée d'une réinsertion. L'idée que la fonction de la prison, c'est à la fois la punition, la prévention, la dissuasion, mais aussi la réinsertion. Or, tout ça disparaît avec ce système qui est mis en place en 2008, qui aboutit à séparer complètement la dangerosité de la culpabilité et à séparer la punition de la protection de la société. C'est pour ça que c'est un passage d'un droit pénal à un droit sécuritaire.
Oui. Et c'est la dérive sécuritaire sur laquelle vous nous alertez. Alors je voudrais au passage, parce que le titre de votre livre le donne, il parle de sûreté. On connaît bien sûr la sécurité et l'insécurité dont on nous rebat beaucoup les oreilles. Je voudrais au passage un peu rapidement, mais que vous nous disiez si c'est possible, pourquoi la sûreté était un droit, c'est un droit ancien, c'est reconnu aux citoyens, et pourquoi on est tout à fait dans autre chose avec la sécurité, oui, et l'obsession de la sécurité.
En effet, le glissement d'un mot à l'autre
n'est pas neutre, oui, alors que moi, j'avoue, je n'y voyais pas de différence.
Il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme comme un droit essentiel, au même titre que la liberté.
Mais en fait, c'était peut-être...
Le droit à la sûreté, c'est la sûreté comme protection contre l'arbitraire du pouvoir.
Oui, voilà.
Donc, c'est le prolongement de la liberté.
Oui, j'allais vous demander, en fait, c'est dans un contexte de refus de cachet, des internements arbitraires.
C'est une sorte d'habeas corpus à la française,
oui,
je dirais.
Oui, oui.
La sûreté, c'est ne pas être enfermé arbitrairement.
Oui.
Mais il y a une certaine ambiguïté dès le XVIIIe siècle, parce que vous avez en même temps dans la Constitution qui va suivre, qui ne sera jamais appliquée, mais qui reste un grand texte théorique, la Constitution de 1791, il y a l'idée que la sûreté, ça peut être la sûreté de l'État.
Ah oui, donc il y a déjà
cette ambiguïté que la sûreté, c'est à la fois la protection contre l'arbitraire de l'État, mais c'est aussi la protection de l'État contre les agissements éventuellement criminels des citoyens. Donc dans le mot sûreté, vous avez les deux volets.
Oui.
Alors que quand on passe au mot sécurité, il reste seulement
la peur de
volet répressif.
Et le volet répressif.
L'idée de l'habeas corpus disparaît.
Oui.
Or, ce mot sécurité, il est employé de plus en plus.
Quelquefois, c'est devenu
une sorte de mot de passe.
Oui.
Je ne dis pas un mot d'ordre, parce qu'à mon avis, il est porteur de désordre, mais c'est un peu le mot de passe.
Oui.
Qui fait de l'indicateur de la sécurité l'indicateur premier. On a même entendu dire par certains responsables politique que la sécurité serait la première des libertés. Ça paraît aller extrêmement loin.
Pour vous, juriste, on est sur un terrain dangereux, là.
Mais c'est-à-dire que la sécurité, c'est quelque chose d'important, bien sûr. Il ne faut pas nier que le monde est dangereux, il l'est. D'ailleurs, j'avais inscrit
le mot dangereux dans votre titre.
Un monde dangereux, liberté et sûreté dans un monde dangereux. Toute société doit protéger ses citoyens s'il y va de sa survie, mais il faut éviter d'en faire l'indicateur premier. Oui. D'ailleurs, quand il y a eu ce rapport présidé par l'économiste Stiglitz sur les indices de bien-être, l'indicateur de sécurité était l'un parmi beaucoup d'autres. Et le risque d'un discours sécuritaire, c'est de survaloriser un aspect de l'insécurité,
cette préoccupation,
qui est l'insécurité liée à la délinquance, alors qu'il y a d'autres formes, en matière économique et financière,
qui sont moins aussi importantes, par exemple.
Oui, et puis il y a des formes d'insécurité qui passent pas par le crime, mais qui passent par la crise économique et financière,
bien sûr,
qui sont au moins aussi importantes. Donc il y a une sorte de confusion qui est ainsi établie.
Alors, je voudrais vous demander si l'évolution, de cette évolution que vous dessinez, est-ce qu'elle est liée uniquement à l'impact, parce qu'on sait qu'il a été important, à l'impact des attentats aux États-Unis, de découverte d'un terrorisme planétaire en septembre 2001. Est-ce que c'est ça la source de la situation dans laquelle nous sommes ?
C'est une question que je me suis posée, parce qu'en fait, quand j'ai décidé de consacrer une année de cours à ce thème, puis à un livre, je suis partie de la question que je me posais, comment a-t-on pu en arriver là ?
Oui.
Parce qu'il y a eu déjà, avant le 11 septembre, une loi qui avait été proposée par Alain Perfit, qui a été votée,
oui,
qui s'appelait « Sécurité et liberté ». Et on a déjà, à cette époque, parlé de risques de dérive sécuritaire.
Et c'était en 1981, mais avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est bien ça. C'est en février.
La loi avait été adoptée juste avant le changement de majorité.
Voilà, oui.
Et les critiques qui ont été faites à l'époque à cette loi ont sans doute joué un rôle dans le changement de majorité.
Bien sûr.
Mais effectivement, il me semble qu'il y a un tournant important avec les attentats du 11 septembre 2001. Parce qu'à partir de là, au fond, on a un peu l'impression que c'est comme la levée d'un tabou. À partir du moment où un grand pays comme les États-Unis, dont personne ne conteste le caractère démocratique, se met à adopter un droit d'exception extrêmement répressif, qui marginalise complètement les juges puisqu'on crée des commissions militaires, qui légitime les traitements inhumains et dégradants,
la torture.
Voire la torture. Et on a tous à l'esprit les photos qu'on a pu voir d'Abu Ghraib,
en Irak,
ou de Guantanamo.
Oui, bien sûr.
Alors, l'état de droit n'est plus une sorte de tabou. On peut toucher à l'état de droit. On peut affaiblir l'état de droit au nom de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute lié aux attentats du 11 septembre 2001. C'est sans doute une des causes, parce que on constate à partir de 2001 un durcissement, pas seulement en France, dans tous les pays.
Oui.
Et d'ailleurs, cette loi française de 2008 dont nous avons parlé, elle est en fait copiée sur une loi allemande. Alors, cette loi allemande a une histoire intéressante à rappeler.
Oui, et cet aspect historique est tout à fait inquiétant quand on lit
notre
livre.
Oui, parce que c'est en fait une loi de la période hitlérienne.
Voilà.
C'est une loi de 1933 qui avait été utilisée à l'époque pour neutraliser, entre guillemets, un certain nombre de dissidents politiques, et elle a été utilisée dans un contexte extrêmement violent.
Oui.
Et cette loi n'avait pas été abrogée après la guerre, alors que la plupart des lois hitlériennes l'avaient été abrogée. Elle n'avait pas été abrogée, mais elle était en sommeil, elle n'était pas utilisée. Or, à la fin des années 90, on a recommencé à l'utiliser dans les domaines des infractions sexuelles. Et puis, à partir de 2001, elle a été légitimée par une des décisions de la Cour constitutionnelle allemande, le tribunal de Karlsruhe, a légitimé l'utilisation de cette loi et même une extension de son application avec des aspects de rétroactivité qui paraissaient choquants.
Oui,
Et la France a tout simplement copié cette loi.
En fait, oui.
Alors, ce qu'il faut dire peut-être, car on n'est pas à la fin de l'histoire concernant la rétention de sûreté, c'est que le système allemand a été condamné
à Strasbourg
par la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui.
Il a été considéré comme contraire, justement, au droit à la liberté et à la sûreté. Au sens que nous évoquions tout à l'heure, la protection contre l'arbitraire, qui figure dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce qui fait qu'il y a une nouvelle décision du tribunal de Karlsruhe, tribunal constitutionnel allemand, pour demander la réécriture de toute une partie du code pénal allemand, y compris la loi sur les mineurs, de manière à supprimer ce qui a été considéré comme une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, ils ont laissé un peu de temps, parce que c'est un travail considérable.
Évidemment, oui.
Donc, il y a une période de transition jusqu'en 2013.
À 2013,
mais il faudra que le droit allemand soit complètement rénové. Pour le moment, il n'y a pas de condamnation de la France. Mais le jour où la Cour serait saisie du droit français, on peut supposer
qu'elle le
que nous serons
en
condamnés
aussi.
Pour les mêmes raisons que les Allemands ont été condamnés.
Et je crois que dans votre livre, je crois que c'est à ce propos, vous citez l'exemple d'un Möck, je prononce très mal, je ne connais pas l'allemand, mais de quelqu'un qui avait, qui a purgé une peine de prison et puis qui est... 15 ans après, c'est un délai énorme, 15 ans, 20 ans.
En tout,
ans.
Il est resté 24 ans en prison.
Pour,
alors,
voilà,
après, c'est l'affaire Mücke contre Allemagne. C'est voilà. La première affaire de condamnation de l'Allemagne qui va déclencher les suites dont nous avons parlé. Et dans cette affaire, il avait été condamné en effet à 5 ans d'emprisonnement.
Pour une tentative, si je me souviens
pour
bien,
une
de
tentative
meurtre, même pas
de
un meurtre
réel.
Voilà, oui.
Un vol armé oui. Et une tentative de meurtre. Bon, ce n'était pas un enfant de cœur.
Bien sûr, oui.
Mais il est condamné à 5 ans. Il est placé en internement, ça s'appelle comme ça en Allemagne, de sûreté. On lui applique la nouvelle loi, parce qu'au moment où il est placé, l'internement était limité à 10 ans. Mais au bout de 10 ans, on le garde encore, parce que la loi est devenue... beaucoup plus répressive et l'internement est à durée indéterminée.
Et on l'applique
donc
d'une façon rétroactive.
On lui applique de façon rétroactive. Ça, c'est la différence avec le droit français qui n'est pas rétroactif. Oui. Et en 2009, au moment où la Cour européenne est saisie, il est toujours emprisonné. Finalement, il sera libéré en mai 2010, après qu'il y ait eu appel de la première décision de la Cour des droits de l'homme, devant la Grande Chambre.
Oui.
La Grande Chambre confirme en mai 2010, et à ce moment-là, il est libéré.
Alors c'est
donc
vrai que
24
c'est assez
ans,
effrayant. Hein.
Il aura passé 24 ans pour une peine de 5 ans. Donc c'est vrai que les chiffres sont effrayants, mais ce qui est effrayant aussi, c'est la motivation qui est derrière, et qui est durement critiquée par la Cour des droits de l'homme.
Alors, dans votre livre, vous construisez avec des étapes. On a déjà beaucoup parlé, peut-être il y a encore des choses à préciser, de ce qui est danger pour les libertés des personnes. Mais vous parlez aussi des mutations, enfin donc des risques au niveau de chaque État, les mutations de l'État de droit ou le contournement. Bon, il y a des choses sans doute encore à dire. Et puis, au niveau planétaire, on y viendra tout à l'heure. Pour les personnes. Peut-être y a-t-il aussi un danger dont on a peu parlé jusque-là, ou pas, les mesures de surveillance, enfin, ou les mesures de contrôle social.
Alors ça, c'est quelque chose de très important.
Voilà, les fichiers, on sait que ça existe. Pour le profane, c'est un peu abstrait. On sait qu'on les croise, mais c'est tout.
Alors ça, c'est quelque chose qui a évolué d'ailleurs après les attentats du 11 septembre. C'est le progrès des nouvelles technologies informatique qui permettent de mettre en place une véritable société de surveillance.
Oui.
Et c'est un aspect inquiétant parce que, en fait, c'est une sorte de despotisme doux et invisible. Mais avec les nouvelles technologies de géolocalisation, par exemple, on peut recueillir. Le 11, ce n'est pas seulement l'État, ce sont des sociétés privées
aussi, oui.
Qui peuvent recueillir des informations extrêmement détaillées sur la vie privée de pratiquement tous les internautes et qui, par là même, peuvent exploiter ces données, peuvent les vendre ou peuvent les transférer, ce qui fait qu'on arrive à, vous l'avez dit, à une interconnexion des données personnelles.
Alors, si j'ai bien compris, on mêle aussi, enfin, par les interconnexions,
on croise
des fichiers de police, des fichiers de renseignement.
La distinction entre sécurité intérieure et extérieure est très affaiblie.
Oui.
Parce que...
À l'échelle européenne, j'imagine.
À l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale.
Oui.
Parce que l'Internet circule à travers les frontières.
Bien sûr.
Les informations sont immatérielles, elles traversent les frontières. Donc, le rôle de l'État est très affaibli. Il y a cet aspect de privatisation, donc de profit.
Oui.
Qui complique encore l'analyse.
Et qui rend les choses
opaques. Il est extrêmement difficile de contrôler cette utilisation des fichiers. Alors, on commence à parler en France de créer un droit à l'oubli. c'est-à-dire oui. un pouvoir de détruire les données, de ne pas les garder, donc de ne pas pouvoir indéfiniment les croiser avec d'autres données. Mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il y a un projet devant le Sénat qui n'est pas encore discuté même.
Oui. Nous allons faire une pause musicale avec un petit passage de harpe et orchestre, un concerto de Glière.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Laurence Arven.
Madame Mireille Delmas-Marty, donc nous poursuivons notre entretien. Alors, c'est à travers beaucoup votre avant-dernier livre « Liberté et sûreté dans un monde dangereux » qui est paru au Seuil. Et on donnera le titre de votre livre qui est le prolongement, le plus récent. Mais pour l'instant, nous sommes dans le domaine des libertés individuelles qui risquent d'être effacées dans beaucoup de cas. Peut-être y a-t-il aussi l'élément de Schengen, de l'espace Schengen et des fichiers, là aussi, des croisements qui sont un danger aussi.
Oui, alors l'espace Schengen, c'est l'ouverture des frontières, mais c'est dans le cadre de l'ouverture des frontières, le renforcement des contrôles.
Oui.
Et le renforcement des contrôles pour les étrangers. Alors c'est vrai que ce qui est inquiétant, mais au-delà même de l'espace Schengen, je dirais dans la politique de contrôle social de l'Union européenne tout entière, c'est une sorte d'amalgame qu'on est en train de faire entre criminalité et immigration.
Et même terrorisme. Oui.
Et c'est vrai que le mot terrorisme ne se trouve pas là par hasard,
parce
que cet amalgame a commencé à se faire au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Là encore, il y a une sorte de bifurcation, parce que la politique communautaire à l'égard des étrangers venant de pays tiers par rapport à la communauté était plutôt une politique d'insertion, d'accueil, d'assimilation.
Oui.
Alors que là, il y a un tournant très net en fin 2001, avec un durcissement des textes européens dans le groupe de Schengen, mais aussi en dehors.
Oui.
Et la possibilité admise par le Parlement européen de retenir un étranger immigré ou candidat à l'immigration pour une période pouvant durer plusieurs mois.
Alors,
ce qui paraît considérable, alors que par hypothèse, non seulement il n'a commis aucune infraction, mais
le seul fait de ne pas avoir de papier en règle.
Il est candidat à l'immigration pour des raisons souvent tout à fait valables.
Alors, on est passé en effet, si je ne me trompe pas, dans, vous le dites dans votre livre, de ce qu'on appelle la rétention, la détention, excusez-moi, administrative, donc des étrangers en situation irrégulière. On est passé de 24 heures à 6 jours, puis à 15 jours renouvelables une fois, donc on arrive à un mois. Alors, je ne sais pas où on en est maintenant, mais on voit bien qu'il y a...
Il y a un allongement, systématique, encore avec les dernières lois votées l'été dernier. Et je vous le disais, le droit européen, là, la France n'est pas le pire.
Oui.
Il y a d'autres pays qui prévoient des durées encore plus longues et le Parlement européen les a acceptées.
Ce qui devrait être, c'est peut-être une réaction naïve, le Parlement européen pourrait être un îlot de résistance, non ?
Ben, sur d'autres questions, le Parlement européen est plus vigilant, par exemple sur le traitement des Roms.
Oui.
Vous savez qu'il y a eu toute une controverse. Et il y a eu des résolutions du Parlement européen très critiques sur la manière de discriminer les Roms, dont certains sont d'ailleurs des ressortissants communautaires.
Bien sûr,
ils ne sont pas des étrangers à la communauté. Là, il y a donc l'Union européenne a été plutôt gardienne des libertés.
Mais c'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas. En fait, c'est compliqué de parler de droit européen parce qu'on a deux Europes finalement du point de vue juridique. On a l'Europe de l'Union européenne, 27.
Oui.
Depuis l'ouverture à l'Est. Et puis l'Europe du Conseil de l'Europe, l'Europe des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, 47 États, dont on oublie parfois.
Oui, oui c'est vrai qu'on pense aux 27 et pas à cet élargissement.
On oublie parfois que dans cette Europe du Conseil de l'Europe, il y a déjà la Russie et il y a déjà la Turquie. Quand on dit la Turquie est en dehors de l'Europe...
Oui, c'est faux, pas, donc d'une certaine manière. Oui.
Parce que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe. Et dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a beaucoup d'affaires actuellement concernant ou la Russie ou la Turquie. Alors là, cette Europe-là, l'Europe de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est vraiment le dernier rempart, je dirais, pour la défense des libertés. L'Europe de l'Union européenne, c'est plus ambigu. Elle est tantôt répressive, tantôt au contraire protectrice des libertés.
Oui. Alors, on est devant, vous le dites au passage, je crois, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, devant deux conceptions. Bon, la conception humaniste, traditionnelle, le mot n'est peut-être pas très, très juste, mais enfin, disons plus ancienne, d'un universalisme des droits, qui est évidemment très occidental comme vision, et puis une espèce d'anthropologie, de conception des liens sociaux, ou de la société pour être plus juste, plus guerrière, où l'autre est toujours le danger. On est dans ces deux optiques-là.
Oui, en anthropologie humaniste qui consiste à dire que l'autre, même criminel, fait partie de la même humanité que nous.
Oui.
Et le plus grand texte à cet égard, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame l'égale dignité de tous les êtres humains, donc quels qu'ils soient et quel que soit leur comportement. Et puis l'anthropologie guerrière, c'est au contraire l'idée qui était déjà présente au XIXe siècle dans l'école positiviste qu'on appelle l'école italienne, qui consiste à dire il y a des individus qui sont dangereux et qui ne font pas vraiment partie de l'humanité. Lombroso disait les criminels, c'est une race à part.
Oh oui, avec les dessins, les physionomies qu'on essayait de repérer, sur lesquels on essayait de repérer des traits de criminels nés.
Alors ça, c'est une vision qui exclut. Et de là, on va passer en effet à une anthropologie guerrière où cet individu qui ne fait pas vraiment partie de l'humanité, c'est un ennemi à combattre.
Oui.
Et ce n'est pas par hasard si dans la terminologie américaine au moment du 11 septembre, on a utilisé l'expression d'ennemis combattants illégaux pour désigner les terroristes.
Oui, c'est vrai. Et pour enfermer à Guantanamo.
Alors, ennemis combattants, ça veut dire qu'ils ne sont pas des criminels comme les autres.
Oui.
Donc, ils n'ont pas droit aux garanties de procédure du droit pénal.
Oui.
Et illégaux, ça veut dire que ce ne sont pas des combattants comme les autres. et ils n'ont pas droit aux garanties du droit des crimes de guerre. Donc ils sont hors la loi.
Ils échappent à toute garantie.
À toutes les garanties. Mmh. Ils sont ni des vrais criminels, ni des vrais ennemis. En faisant l'amalgame des deux, on arrive à éliminer toutes les garanties. Alors oui. C'est ça l'anthropologie guerrière,
oui. C'est celle qui a été
née du 11 septembre,
qui a été installée aux États-Unis les États-Unis.
Oui, puis même en Europe, il y a tout un courant de la doctrine qui est né en Allemagne d'ailleurs.
Oui.
On appelle la doctrine du droit pénal de l'ennemi, où il y a deux types de criminels, ceux qui font encore partie de la même communauté et qu'on peut essayer de réinsérer, et puis ceux qui sont vraiment des ennemis à éliminer. Et ça, c'est une conception qui, effectivement, paraît très régressive.
Oui. Alors, je voudrais que l'on parle, on a beaucoup parlé des personnes, ce qui est tout à fait logique, que l'on parle des mutations de l'état de droit, puisque c'est aussi un des aspects sur lesquels vous travaillez. Alors, on connaît les expressions d'état d'urgence, d'état d'exception. Vous parlez aussi de détournement, de contournement. De quoi s'agit-il exactement ? L'état de droit est affaibli.
L'état de droit, c'est l'idée d'un état soumis au droit. Ce n'est pas un état qui fait des lois.
C'est lui qui se soumet.
C'est un état qui est soumis au droit.
Et au droit, oui.
Et cet état est soumis au droit dans des conditions qui ne sont pas les mêmes selon les situations.
Oui.
Alors, il y a des mesures d'exception qui permettent, dans des situations exceptionnelles, de réduire certaines garanties. Mais ça, c'est codifié par les constitutions et c'est limité, c'est temporaire. Alors, ce droit d'exception, c'est ce qui a été utilisé par les Américains après le 11 septembre.
Oui, tout à fait.
Mais en revanche, en France, face au terrorisme ou face à la criminalité que nous évoquions, celle qui donne lieu à des internements de sûreté, on n'a pas eu besoin d'utiliser un droit d'exception. On a simplement durci la répression par une sorte de détournement de l'état de droit. On n'a pas eu besoin de changer les textes.
Oui.
On a utilisé les textes existants du point de vue constitutionnel et ça a permis ce durcissement.
Alors c'est aussi bien, j'imagine, dans les gardes à vue, dans des écoutes, voire des traitements d'enfermement plus ou moins arbitraires.
Oui, mais sans toucher à la Constitution.
Sans toucher à la Constitution.
Sans toucher à la Constitution. Oui. Alors, il y a aussi une sorte de pratique qui est venue des États-Unis, mais qu'on commence à observer en Europe et même en France, qui est l'état de droit qui n'exerce pas pleinement ses compétences, une sorte de privatisation. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant aussi. La privatisation de l'armée, la privatisation de la police, la privatisation même des prisons. C'est un mouvement qui fait que c'est une défaillance de l'état de droit qui n'exerce pas pleinement ses prérogatives qu'on appelait régaliennes.
Oui, alors j'imagine que c'est tout à fait ce qui s'est produit en Irak. On a su à un certain moment, je ne sais pas quand les pratiques ont été vraiment révélées, mais qu'il y avait des sociétés privées.
Donc,
des morceaux de l'armée.
Les sociétés privées sont supposées respecter les règles de droit, mais c'est extrêmement difficile de les contrôler.
Oui.
Et c'est extrêmement difficile de savoir qui est responsable dans les cas de dysfonctionnement.
Bien sûr, oui. Et est-ce que c'est... Alors, le phénomène, j'allais vous demander, ce phénomène, on l'a vu aux États-Unis beaucoup, il s'installe en Europe également.
Oui, mais en tout cas, pour ce qui est des activités de police, il y a une privatisation des activités de police et largement de surveillance qui va beaucoup plus loin que ce qui était admis avant les années 2000.
Alors, si on prend des aspects plus dramatiques, c'est les États-Unis en partie, mais à l'échelle mondiale aussi, toute la pratique que l'on a su que très tard, en 2006, je pense, de la torture délocalisée et délocalisée partout, finalement.
Oui, alors ça, c'est encore un effet peut-être aussi de la mondialisation, parce qu'au fond, on a une répression pénale et un contrôle social qui se développe à l'échelle mondiale, qui se développe indépendamment des frontières. Alors, les pratiques de torture ont été autorisées presque officiellement par le droit américain,
oui.
Mais tout ne s'est pas passé aux États-Unis. D'ailleurs, Guantanamo, c'est déjà un territoire...
Déjà, c'est à Cuba, oui.
Qui se trouve à Cuba, donc,
oui.
Qui est sous contrôle américain. Mais on a découvert... Alors l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a joué un rôle très important,
oui.
Dans la découverte de ces lieux où les États-Unis délocalisaient la torture et la détention. Et on en a trouvé un peu partout dans le monde, mais notamment, y compris en Europe. Donc là, on voit une sorte de mondialisation de la répression dans ses aspects les plus,
oui.
Redoutables, comme la torture, qui est à la fois un phénomène lié à la réaction nationale, l'État américain,
bien sûr, oui.
Mais un phénomène beaucoup plus large lié à la globalisation,
oui.
Du crime et de la réponse au crime.
Alors je voudrais, je voudrais aussi que l'on prenne à cette, enfin maintenant, puisqu'il doit nous rester environ 10 minutes d'entretien, vous dessinez à la fin de votre livre deux formes de, disons, de danger, puisque vous ne le niez pas, nous vivons dans un monde dangereux. Il y a les dangers qui viennent de la violence, alors le terrorisme, le crime organisé, le blanchiment d'argent, la violence...
La violence humaine.
La violence humaine, bien sûr. Et puis, il y a les risques qui viennent d'autres choses, qui ne sont pas la violence humaine, mais... la puissance même de la Terre, on pense à des catastrophes climatiques éventuelles. Et à partir de là, vous dessinez deux avenirs possibles pour notre planète.
Oui.
Est-ce que nous allons vivre ce qui semble se dessiner avec les murs qui sont construits un peu partout, avec ce qu'on vient de dire, de contournement de l'état de droit, de pratiques de croisement de fichiers opaques. Est-ce qu'on va vers une société de la peur, une communauté de la peur, ou est-ce qu'on va vers une... Est-ce qu'on peut encore espérer une communauté autre, qui ne soit pas fondée sur la peur, l'exclusion, sur ce que vous appelez la peur qui déclenche la solidarité ?
Voilà, c'est la question que je pose en partant de l'idée qu'il y a en fait deux sortes de peurs. La peur de l'autre qui conduit à la haine et à l'exclusion, que j'appelle en effet la peur-exclusion,
oui.
Qui conduit d'ailleurs à des sociétés de la peur, parce que les gens se cloisonnent, ils construisent des murs, comme vous l'avez rappelé, ils se protègent, ils s'enferment même derrière les murs. Mais il y a une autre peur qui n'est pas forcément mauvaise conseillère comme la première, que j'appelle la peur solidarité, parce que c'est la peur des risques globaux. Alors, je crois que l'exemple que vous avez évoqué du changement climatique est un très bon exemple de ces risques globaux qui peuvent créer, au fond, à l'échelle planétaire, le sentiment d'appartenance à la même communauté. Nous sommes tous embarqués sur cette petite planète Terre, elle est fragile, il faut la protéger, pour la protéger... Il faut que nous soyons solidaires.
Mais j'ai envie de vous faire une objection, un peu l'avocat du diable. Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'accueillir, si la situation s'aggravait, des réfugiés climatiques ?
Ben, ce sera le test. Pour admettre, pour passer au fond des sociétés de la peur en communauté de destin, le test, ce sera la manière de traiter les étrangers en général. Et si on parle de risques globaux, ce qu'on commence à appeler les réfugiés environnementaux.
Oui, voilà.
Ce sera le test, parce que à l'heure actuelle, c'est très difficile de dire vers quoi nous allons. Il y a des éléments positifs qui font penser qu'on pourrait aller vers une communauté de destin. En matière climatique, finalement, on a un petit peu avancé dans le dernier sommet, oui. Qui s'est tenu à Durban, il y a quelques semaines à peine. Il s'agissait de savoir si on obtiendrait un engagement des pays qui n'ont pas encore accepté ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, oui, c'est-à-dire la convention internationale, qui impose des réductions dans les émissions de gaz à effet de serre. Et les pays qui n'ont pas encore accepté, c'est les États-Unis, oui, mais c'est aussi la Chine et un certain nombre
de grands pays émergents.
Donc on a un calendrier qui s'arrête à 2012 et le débat, c'est de savoir ce qu'on va faire après 2012. Or, finalement, in extremis, à Durban, on a obtenu un engagement des États-Unis et de la Chine et d'un certain nombre d'autres pays. Mais c'est reporté à 2015 pour le nouveau traité.
Oui.
Donc il y aura un nouveau traité, mais il est renvoyé à 2015 et la mise en application à 2020. Alors c'est un peu le verre demi-plein, demi-vide. C'est-à-dire c'est mieux que rien parce qu'il y a un engagement de l'ensemble des États. Donc il y a quand même une prise de conscience de cette solidarité nécessaire. Mais on la renvoie à plus tard.
Oui.
Parce que cette solidarité, elle est gênante dans l'immédiat.
Dans la crise économique et face à d'autres problèmes.
Au moment d'une crise économique, voilà, les chefs d'État ne sont pas prêts à prendre de tels engagements. Donc la solidarité, elle est là, mais on la renvoie à plus tard.
Oui, j'ai un tout petit peu l'impression par moment, à ce moment-là, que vous êtes utopiste ou optimiste. Enfin, vous parliez vous-même du verre à demi-plein et à demi-vide. C'est vrai que le test concernant les réfugiés environnementaux sera important. Et je voudrais que vous prolongiez cette réflexion que vous entamez dans ce livre. Je sais que vous l'avez prolongée avec le livre suivant, qui s'appelle « Vers une communauté de valeurs ». Et donc, que vous avez fait paraître cette année au Seuil également. Alors, qu'est-ce que c'est que ces valeurs et cette communauté de valeurs que vous voulez dessiner ?
Mais pour simplifier un peu et résumer beaucoup, je dirais que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame l'universalisme des droits fondamentaux.
C'est vrai, oui.
Mais en même temps, nous avons un texte de l'UNESCO de 2005 qui pose le principe de la diversité des cultures. La diversité des cultures, patrimoine commun de l'humanité. Alors, aller vers une communauté de valeurs, c'est essayer de résoudre la contradiction apparente, c'est-à-dire d'aller vers un universalisme pluriel qui ne gomme pas les différences, qui ne gomme pas la diversité.
Oui.
Et j'appelle cet universalisme humanisme en même temps, un humanisme de réciprocité, où chaque culture apporte quelque chose, oui, aux autres. Donc, combiner l'un et le multiple, c'est un peu ça l'objectif d'une communauté de valeurs. Je ne souhaite pas du tout un monde uniforme.
Non, ce serait d'ailleurs impossible, personne ne le souhaite.
C'est ni faisable ni souhaitable.
Oui.
En revanche, je souhaite que nous ayons le sentiment d'appartenance à la même communauté, avec un fond de valeurs communes, mais appliquées, construites, dans des contextes qui sont différents.
Est-ce que ça veut dire que c'est sur ces sujets-là, bien sûr, que vous travaillez, mais que vous intervenez au plan international dans certains de vos déplacements ? C'est sur ce thème-là ?
Oui, ben, par exemple, je suis conseiller spécial du procureur de la Cour pénale internationale et nous avons souvent des conversations sur la question de savoir comment respecter ce pluralisme,
oui,
dans l'application de textes qui concernent des crimes universels par nature, parce que le crime contre l'humanité, par définition même, ça concerne l'humanité tout entière. Et pourtant, il faut tenir compte, chaque fois que le procureur décide s'il lance une enquête, des poursuites, du contexte local,
bien sûr, oui,
national, de l'histoire de chaque pays, de la culture de chaque pays, de l'État aussi, de l'organisation judiciaire dans chaque pays. Parce que cette cour, elle ne juge que quand les États sont incapables de le faire ou n'ont pas la volonté de, oui, le faire. Donc là, il y a un exemple parmi d'autres d'une sorte d'exercice pratique.
Oui, de recherche et d'exercice pratique.
Que veut dire,
oui,
L'expression que j'emploie souvent, c'est le pluralisme ordonné. La communauté de valeurs, elle passe par l'idée d'un pluralisme des valeurs, mais d'un pluralisme ordonné autour de principes communs. Mais là, c'est une application pratique du pluralisme ordonné. Il y en a d'autres dans d'autres domaines.
C'est tout à fait passionnant, bien sûr.
La régulation financière, par exemple.
Oui, aussi. Madame Mireille Delmas-Marty, je vous remercie beaucoup. J'espère que les auditeurs auront envie de plonger dans votre livre, enfin vos livres. Alors je rappelle les deux titres, les deux derniers ouvrages. « Liberté et sûreté dans un monde dangereux » paru au Seuil et « Vers une communauté de valeurs », ce que vous venez de nous décider comme avenir plus optimiste et meilleur, certainement.
Un peu plus optimiste.
Un peu plus optimiste.
Petite fenêtre.
Merci beaucoup, oui.